Chapitre 52, la dépression. Bien des maladies proviennent de la dépression, un esprit satisfait et joyeux est la santé pour le corps et la force pour l'âme. Rien ne contribue davantage à la maladie que la dépression, la mélancolie et la tristesse. Bien des maladies dont souffrent les gens sont dues à la dépression mentale. Ce qui favorise la guérison, Dieu connaît chacun par son nom. Il prend soin de chaque individu comme s'il était le seul pour lequel il ait donné son Fils. Ce grand amour, cette bonté fidèle devrait encourager les malades à mettre en lui leur confiance. L'anxiété entraîne la faiblesse et la maladie. Il faut donc bannir les sentiments déprimants pour que les chances de guérison soient plus grandes. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Cause de dépression. Certains font preuve d'une réserve froide, glaciale, d'une raideur implacable, et repoussent ceux qui sont soumis à leur influence. Cet état d'esprit est contagieux. Il crée une atmosphère qui altère les bonnes impulsions et les bonnes résolutions. Il bloque l'élan naturel de la sympathie, de la cordialité et de l'amour humain. Sous son influence, les gens deviennent crispés, et leurs traits sociaux et généreux s'étiolent, faute d'être exercés. Ce n'est pas seulement la santé spirituelle qui est affectée, mais la santé physique souffre de cette dépression anormale. La tristesse et la froideur de cette atmosphère insociable se reflètent dans le comportement. Le visage de ceux qui sont bienveillants et sympathiques brillera du reflet de la vraie bonté, tandis que le visage de ceux qui ne cultivent pas des pensées bienveillantes et des motivations généreuses reflète les sentiments de leur cœur. Effet de la mauvaise aération, les effets produits par le fait de vivre dans des pièces mal aérées sont les suivants, l'organisme devient faible et en mauvaise santé, la circulation se fait mal car le sang circule difficilement parce qu'il n'est ni purifié ni vivifié par l'air pur du ciel. L'esprit devient abattu et triste tandis que tout l'organisme est affaibli, ce qui risque de produire de la fièvre et d'autres troubles graves. Importance de la respiration. On devrait laisser aux poumons la plus grande liberté possible. Lorsqu'ils fonctionnent normalement, leur capacité s'accroît. Elle diminue s'ils sont gênés ou comprimés. De là les mauvais effets de la pratique si courante, surtout dans les travaux sédentaires, de se tenir penché sur son ouvrage. Dans cette position, il est impossible de respirer profondément. La respiration superficielle devient bientôt une habitude, et les poumons perdent leur élasticité. C'est ainsi que la quantité d'oxygène reçue est insuffisante. Les déchets toxiques qu'il leur faut éliminer par les expirations sont retenus, le sang circule lentement et devient impur. Et ce ne sont pas les poumons seuls qui souffrent de cet état de choses, mais encore l'estomac, le foie et le cerveau. La peau devient jaune, la digestion se ralentit, le cœur s'affaiblit, le cerveau s'obscurcit, les pensées deviennent confuses, et l'esprit est envahi par des idées noires. L'organisme tout entier est déprimé et devient particulièrement sujet à la maladie. La bonne respiration calme les nerfs, pour avoir un sang pur, il faut respirer convenablement. Des inspirations profondes au grand air apportent aux poumons l'oxygène qui purifie le liquide nourricier. Celui-ci prend dès lors une teinte rouge vif, et va porter la vie dans toutes les parties du corps. Une bonne respiration calme les nerfs, stimule l'appétit, facilite la digestion et assure un sommeil paisible et réparateur. Ce dont Ellen White a souffert, j'ai été gravement affectée par la maladie. Pendant des années, j'ai souffert d'hydropisie et de troubles cardiaques, qui avaient tendance à briser mon moral et à détruire ma foi et mon courage. L'excitation artificielle engendre la dépression. Par suite de l'intempérance pratiquée à la maison, les organes digestifs sont affaiblis, et bientôt, la nourriture ordinaire ne satisfait plus l'appétit. On prend alors des habitudes malsaines, et l'on éprouve le besoin d'absorber une nourriture stimulante. Le thé et le café produisent un effet immédiat. Sous l'influence de ces poisons, le système nerveux est excité. Parfois même, l'intelligence semble temporairement stimulée, et l'imagination plus vive. Parce que ces stimulants produisent des résultats aussi agréables, Nombreux sont ceux qui en déduisent qu'ils en ont réellement besoin. Mais il y a toujours un contre-coup. Le système nerveux a puisé pour le présent de l'énergie dans ses réserves futures, et cette vivification temporaire est suivie par une dépression correspondante. La rapidité de l'aide obtenue par le thé et le café prouve que ce qui paraît être de l'énergie n'est en réalité qu'une excitation nerveuse qui ne peut qu'être nuisible à l'organisme. Message adressé à un mari, quand vous vous êtes marié, votre femme vous aimait. Elle était extrêmement sensible. Cependant, si vous aviez fait des efforts, et si elle s'était montrée courageuse, sa santé n'aurait pas été ce qu'elle est aujourd'hui. Mais votre grande froideur a fait de vous un véritable iceberg, bloquant ainsi le chemin de l'amour et de la tendresse. Vos reproches et vos critiques ont été comme un déferlement de grêle sur une plante fragile qui l'a gelée et presque détruite. Votre amour du monde réduit à néant vos bons traits de caractère. Votre femme est différente. Elle est plus généreuse. Mais lorsque, même sur des questions mineures, elle a voulu manifester sa générosité, vos sentiments se sont refroidis et vous l'avez blâmée. Vous laissez libre cours à un esprit maussade et renfermé. Vous donnez à votre femme le sentiment qu'elle est une charge, un fardeau, et qu'elle n'a pas le droit d'exercer sa générosité en dépensant un peu. Tout cela est tellement affligeant qu'elle est désespérée, désemparée, et elle n'a pas l'énergie nécessaire pour le supporter, mais elle se courbe sous la force du vent. Elle souffre d'une maladie des nerfs. Si sa vie de femme mariée était agréable, elle jouirait d'une bonne santé. Mais tout au long de votre vie conjugale, le démon a été un invité dans votre famille où il s'est réjoui de votre détresse. Savoir maîtriser les pulsions sexuelles, de très nombreuses familles vivent dans un état lamentable parce que le mari, et père permet à sa nature animale de dominer sur sa nature intellectuelle et morale. Il en résulte fréquemment un sentiment de langueur et de découragement, mais on en discerne rarement la cause, qui est le fruit d'une mauvaise façon d'agir. Nous avons envers Dieu l'obligation solennelle de garder notre esprit pur et notre corps en bonne santé, afin que nous soyons un bienfait pour l'humanité, et que nous rendions au Seigneur un service parfait. L'apôtre Paul nous adresse cet avertissement, que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Par ailleurs, il écrit, « Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence ». Il exhorte également tous ceux qui se réclament du nom de chrétien à offrir leur corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et déclare, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. » Un découragement temporaire peut suivre un succès, une réaction, telle qu'il s'en produit fréquemment après les périodes de foi ardente et de victoire spirituelle, menaçait Élie. Il redoutait que la réforme commencée sur le Carmel ne fût pas durable, et le découragement l'envahit. Il s'était élevé sur le sommet de Pisga. Maintenant il était redescendu dans la vallée. Animé par l'inspiration divine, sa foi avait résisté à la plus terrible épreuve. Mais à cette heure sombre, alors que retentissaient encore à ses oreilles les menaces de Jézabel et que Satan semblait favoriser le projet de la reine malfaisante, le prophète perdit sa confiance en Dieu. Il avait été élevé au-dessus de toute imagination, et la réaction qui s'ensuivit fut terrible. Apprendre à dominer ses états dépressifs, la mère doit et peut faire beaucoup pour dominer ses nerfs en période de dépression. Même lorsqu'elle est malade, elle peut, si seulement elle s'y exerce, être aimable et douce et supporter plus de bruit qu'elle ne l'aurait jamais cru. Elle ne devrait pas faire sentir à ses enfants ses infirmités et assombrir leurs esprits jeunes et sensibles par son état de dépression, en leur faisant considérer la maison comme un tombeau et la chambre de leur mère comme l'endroit le plus ennuyeux du monde. L'esprit et les nerfs seront tonifiés et fortifiés par l'exercice de la volonté. La puissance de celle-ci s'avérera dans bien des cas le meilleur calmant nerveux. D'un extrême à l'autre, ceux qui ne comprennent pas que c'est un devoir religieux d'habituer l'esprit à méditer sur des sujets encourageants tomberont dans l'un ou l'autre de ces deux extrêmes, ou bien ils seront débordants de joie grâce à une série continuelle de plaisirs excitants, et se livreront à des conversations frivoles, à des rires et à des plaisanteries, ou bien ils seront déprimés par suite de grandes épreuves et de conflits mentaux qu'à leur avis, peu ont vécu ou peuvent comprendre. Ces personnes-là ont beau faire profession de christianisme, elles se trompent elles-mêmes. L'influence de la page imprimée, mon mari a travaillé sans relâche pour amener l'œuvre des publications au succès qu'elle connaît présentement. J'ai vu qu'il a bénéficié de davantage de sympathie et d'amour de la part de ses frères qu'il ne l'avait pensé. Il parcourt attentivement le journal afin d'y trouver un article de sa plume. Si ce qu'il écrit est réconfortant, s'il s'exprime sur un ton encourageant, leurs cœurs sont soulagés, certains même vont jusqu'à pleurer de joie. Mais si ses écrits reflètent l'amorosité et la tristesse, ses frères et sœurs, lorsqu'ils les lisent, sont eux-mêmes attristés, l'esprit qui caractérise ses écrits rejaillit sur eux. Un homme découragé est un fardeau pour lui-même, message destiné à des étudiants en médecine, j'ai vu le fait que dans votre classe de missionnaires médicaux, il y a ceux dont le premier devoir devrait être de se connaître eux-mêmes, de calculer la dépense, pour savoir si, au moment où ils commencent à bâtir, ils auront de quoi achever la construction. Que Dieu ne soit pas déshonoré pour avoir démoli l'homme qu'il voulait au contraire éduquer. Car un homme abattu, découragé, est un fardeau pour lui-même. S'imaginer que dans quelque tâche qu'il, l'étudiant, envisage d'accomplir, Dieu le soutiendra, alors qu'il s'accable d'études, au péril de sa santé et de sa vie, et au mépris des lois de la nature, est contraire à la lumière que Dieu a donnée. La nature ne saurait être violée impunément. Elle ne pardonne pas les blessures infligées à la merveilleuse et délicate machine humaine. Sentiment caché, un enfant que l'on reprend fréquemment pour la même faute finit par penser que cette faute lui est personnelle et qu'il ne peut lutter contre elle. C'est ainsi que naissent le découragement et le désespoir, souvent cachés sous l'apparence de l'indifférence et de la bravade. La nécessité de l'effort, vous pouvez être une famille heureuse si vous faites ce que Dieu vous a dit, et ce qu'il vous a prescrit comme un devoir. Mais le Seigneur n'accomplira pas à votre place la tâche qu'il vous a confiée. Frère C. mérite notre pitié. Il se sent malheureux depuis si longtemps que la vie lui est devenue un fardeau. Point n'est besoin qu'il en soit ainsi. Son imagination est malade, et il a tellement fixé ses yeux sur des images sombres que s'il connaît l'adversité ou la déception, il s'imagine que tout va s'écrouler, qu'il va se trouver dans le besoin, que tout est contre lui et qu'il est plus éprouvé que tout le monde, bref, que sa vie est un vrai malheur. Plus il le pense, plus il rend pitoyable sa propre vie et celle de ceux qui l'entourent. Mais il n'a aucune raison de le penser, tout cela est l'œuvre de Satan, et il ne doit pas permettre à l'ennemi de dominer si son esprit. Il doit détourner ses regards des images sombres et tristes, et les fixer sur le cher Sauveur, la gloire du ciel, et sur le riche héritage destiné à tous ceux qui sont humbles et obéissants, qui ont des cœurs reconnaissants et ne cessent de se confier dans les promesses de Dieu. Cela lui coûtera un effort, une lutte, mais il le faudra. Votre joie présente et votre bonheur futur et éternel vous sont assurés à condition que vous fixiez votre esprit sur des sujets joyeux, que vous détourniez vos regards des tableaux sombres qui sont imaginaires, afin de méditer sur les bienfaits que Dieu a semés sur votre route, et au-delà de ces bienfaits, sur les choses invisibles et éternelles. Le fruit des appréhensions, votre vie est malheureuse, pleine de mauvais pressentiments. Des images de tristesse planent sur vous. Vous êtes prisonnier d'une sombre incrédulité. En prononçant des propos incrédules, votre obscurité est devenue de plus en plus épaisse. Vous prenez un malin plaisir à vous absentir sur des sujets affligeants. Si d'autres essaient de parler d'espoir, vous détruisez en eux tout sentiment encourageant, et en des termes particulièrement implacables. Vous présentez toujours à votre femme vos épreuves et vos afflictions comme si vous la considériez elle-même comme un fardeau à cause de sa santé fragile, ce qui est très affligeant pour elle. Si vous aimez l'obscurité et le désespoir, si vous en parlez, si vous vous y attardez, si vous attristez votre âme en peuplant votre imagination de tout ce qui peut vous inciter à murmurer contre votre famille et contre Dieu, vous transformez votre cœur en un champ passé par le feu, détruisant toute verdure et le laissant aride, noirci et desséché. Agir non d'après nos sentiments, mais d'après des principes, vous appartenez à une famille dont les esprits ne sont pas très équilibrés, qui sont pessimistes et déprimés, influencés par leur entourage. Si vous ne cultivez pas un état d'esprit joyeux, dynamique, reconnaissant, Satan fera finalement de vous l'esclave de sa volonté. Vous pouvez être un soutien, une force pour l'Église où vous résidez, si vous obéissez aux instructions du Seigneur et si, au lieu d'agir au gré de vos sentiments, vous agissez d'après des principes. Ne permettez pas à vos lèvres de proférer des paroles de blâme, car elles seraient pour ceux qui vous entourent comme une grêle catastrophique. Que sortent de vos lèvres des paroles réconfortantes, rayonnantes et aimables. Brisez les liens dont Satan nous tient prisonniers, souvenez-vous que dans votre vie, la religion ne doit pas être seulement une influence parmi d'autres, mais qu'elle doit dominer toutes les autres. Pratiquez une stricte tempérance. Refusez toute concession avec le malin. Ne prêtez pas l'oreille aux suggestions qu'il met dans la bouche des hommes et des femmes. Vous avez une victoire à remporter. Vous avez à acquérir une noblesse de caractère. Mais vous n'y parviendrez pas aussi longtemps que vous serez déprimé et découragé par les échecs. Brisez les liens avec lesquels Satan vous tient prisonnier. Point n'est besoin d'être son esclave. Jésus dit, « Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. » Conseil adressé à un pasteur déprimé, vous devriez travailler avec ménagement et prendre des temps de repos. Vous conserveriez ainsi votre énergie physique et mentale, et votre ministère serait plus efficient. Frère F, vous êtes un homme nerveux et vous agissez fréquemment par impulsion. Votre dépression mentale influe grandement sur votre œuvre. Parfois, vous avez le sentiment d'être privé de liberté, et vous pensez que cela provient de ce que les autres sont dans les ténèbres, qu'ils se trompent, ou qu'il y a quelque part un problème sans que vous sachiez lequel, et vous vous en prenez quelque part à quelqu'un, au risque de lui faire beaucoup de mal. Si, lorsque vous êtes dans cet état nerveux et agité, vous essayez de vous détendre, de vous reposer calmement sur Dieu et de vous demander si le problème ne vient pas de vous-même, vous épargneriez des blessures à votre âme et à la précieuse cause de Dieu. Les esprits sont faits de ce dont on les nourrit, quand vous constatez l'iniquité qui vous environne, vous vous réjouissez de savoir qu'il, Jésus, est votre sauveur, et que vous êtes ses enfants. Est-ce que nous devons regarder à cette iniquité qui nous entoure et nous attarder sur ce triste aspect des choses? De toute façon, vous ne pouvez rien y changer. Parlez donc de ce qui est plus haut, meilleur et plus édifiant. Si nous descendons dans une cave, que nous y restions et regardions autour de nous dans les coins sombres, nous pouvons dire, « Oh ! Il fait bien sombre ici !» Mais le fait de le répéter ne rendra pas le lieu plus clair. Que faire alors? Sortez de là, sortez de l'obscurité et montez dans la pièce du haut, où la lumière de Dieu brille avec éclat. Vous le savez, nos corps sont faits de la nourriture que nous assimilons. Eh bien, il en est de même de nos esprits. Si notre esprit s'attarde sur le côté sombre des choses de la vie, il ne nous restera plus d'espoir. Mais nous voulons au contraire méditer sur les scènes joyeuses du ciel. L'apôtre Paul écrit, « Car un moment de légère affliction produit en nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. » Le Christ sympathise avec ceux qui souffrent de dépression, « Chère sœur âgée-bas, je suis attristée de vous savoir malade et souffrante. Mais attachez-vous à celui que vous avez aimé et servi durant tant d'années. Il a donné sa vie pour le monde, et il aime tous ceux qui se confient en lui. Il sympathise avec ceux qui souffrent d'une dépression pathologique. Il ressent toutes les angoisses qu'éprouvent ses bien-aimés. Reposez-vous simplement dans ses bras, et sachez qu'il est votre sauveur, votre meilleur ami, qu'il ne vous laissera ni ne vous abandonnera jamais. C'est sur lui que vous avez compté pendant tant d'années, et votre âme peut reposer avec espoir. Vous vous avancerez avec d'autres fidèles qui ont cru en lui, pour le louer d'une voix triomphale. Tout ce que l'on attend de vous est que vous vous reposiez dans son amour. Ne vous mettez pas en souci. Jésus vous aime, et maintenant que vous êtes faible et souffrante, il vous tient dans ses bras, comme un père aimant tient son petit enfant. Confiez-vous en celui en qui vous avez cru. Ne vous a-t-il pas aimé, et n'a-t-il pas pris soin de vous tout au long de votre vie? Reposez-vous donc sur les précieuses promesses qu'il vous a faites. L'action du Saint-Esprit, je me suis entretenue avec vous pendant la nuit, et je vous disais combien je suis heureuse de savoir que vous habitez dans un si bon endroit, si proche du sanatorium. Ne vous laissez pas aller à la dépression, mais ouvrez votre cœur à l'influence réconfortante du Saint-Esprit qui vous donnera la consolation et la paix. Ma sœur, si vous souhaitez remporter de précieuses victoires, tournez-vous vers la lumière qui émane du soleil de justice. Parlez d'espérance, de foi et de reconnaissance envers Dieu. Soyez de bon courage, et espérez en Christ. Apprenez à le louer. C'est là un remède efficace pour les maladies de l'âme et du corps. Croire que Jésus est à la barre, lorsque les prédicateurs par lesquels Dieu agit maintenant viennent à la conférence avec des nerfs fragiles et de plus en plus déprimés, il dégage forcément une atmosphère semblable à une épaisse couche de brouillard masquant un ciel clair. Nous avons besoin de cultiver la foi. Que de nos lèvres montent ces paroles, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon Sauveur. » Nous devons avoir la certitude que le Sauveur est présent, croire fermement qu'il est à la barre et qu'il conduira en sûreté jusqu'au port le noble vaisseau. Nous devons savoir qu'il nous est impossible de nous sauver nous-mêmes ou de sauver par nous-mêmes quelque âme que ce soit. Nous n'avons pas le pouvoir de procurer le salut à ceux qui se perdent. Jésus le Rédempteur est le Sauveur. Nous ne sommes que ses instruments, et nous dépendons de Dieu à chaque instant. Nous devons exalter sa puissance devant le peuple qu'il s'est choisi et devant le monde pour le grand salut qu'il nous a accordé par son sacrifice expiatoire et par son sang. L'auteur fait preuve de franchise, « Je suis parfois grandement embarrassé pour savoir ce que je dois faire, mais je ne suis pas déprimé pour autant. Je suis décidé à introduire le plus de rayons de soleil possible dans ma vie. Mon cœur a bien des raisons d'être attristé, mais j'essaie de ne pas prononcer des paroles décourageantes, parce qu'une personne qui m'entend peut avoir elle-même le cœur triste, et je ne dois rien faire qui risque d'augmenter sa tristesse. Percer les ténèbres par la foi, si je me contentais de fixer mes yeux sur les nuages noirs, les soucis et les difficultés inhérentes à mon œuvre, il ne me resterait pas de temps pour faire autre chose. Mais je sais qu'au-delà des nuages, il y a la lumière et la gloire. Parfois, je suis appelé à traverser des difficultés financières, mais l'argent n'est pas pour moi une cause de souci. Dieu prend soin de mes affaires. Je fais tout ce que je peux, et quand le Seigneur voit qu'il m'est utile d'avoir de l'argent, il m'en procure. La foi, une nécessité, lorsque je visitais le Paradise Valley Sanitarium, Californie, voici environ 3 ans, je me suis adressé aux employés presque tous les matins à 5 heures, et plus tard dans la journée aux patients. Il y avait parmi ces derniers un homme qui semblait continuellement déprimé. J'ai appris qu'il croyait en la Bible, mais qu'il était incapable d'exercer la foi nécessaire pour bénéficier personnellement des promesses de Dieu. Chaque matin, je parlais de la foi aux malades, et je les engageais à croire aux paroles de Dieu. Cependant, ce pauvre homme semblait incapable de reconnaître qu'il avait la foi. Alors je lui ai parlé seul à seul, je lui ai présenté la vérité par tous les moyens et lui ai demandé s'il ne pouvait pas croire que le Christ était son sauveur personnel et qu'il voulait lui venir en aide. Notre Sauveur a dit à tous ceux qui sont fatigués et chargés, « Prenez mon joug sur vous. » Ne portez pas un joug fabriqué de vos propres mains. Prenez mon joug sur vous, a-t-il dit, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Finalement, le moment de mon départ étant arrivé, je dis à cet homme, « Et maintenant, mon ami, pouvez-vous me dire que vous avez appris à vous confier en ce Sauveur qui s'est donné tant de peine pour répondre aux besoins de chaque âme ? Pouvez-vous vous confier en lui et continuerez-vous à le faire? Pouvez-vous me dire, avant que je ne parte, que vous avez désormais la foi nécessaire pour croire en Dieu? » Il me regarda et dit, « Oui, je crois, j'ai la foi. » Je lui répondis, « Béni soit le Seigneur. » Bien que d'autres patients aient été présents et aient écouté mes paroles dans le salon, en la circonstance mes efforts avaient été amplement récompensés. Ce qui réjouit Satan, ne confiez pas à autrui vos épreuves et vos tentations. Le Seigneur seul peut vous aider. Si vous remplissez les conditions requises, les promesses divines se réaliseront pour vous. Si votre esprit s'appuie sur Dieu, vous ne passerez pas d'un état de joie délirante à la vallée du découragement lorsque vous êtes confronté à l'épreuve et à la tentation. Vous ne parlerez pas de vos doutes et de votre tristesse aux autres. Vous ne direz pas, « Je ne comprends pas ceci ou cela, je ne me sens pas heureux, je ne suis pas sûr que nous soyons dans la vérité. » Vous ne ferez pas cela, car vous disposerez d'une encre de l'âme, sûre et solide. Quand nous exprimons des paroles de découragement et de tristesse, Satan prête l'oreille, et y prend un plaisir diabolique. Car il est heureux de voir qu'il nous a réduits en esclavage. Le malin ne peut pas lire nos pensées, mais il peut voir nos actes, entendre nos paroles, et à cause de sa longue connaissance de la nature humaine, il peut adapter ses tentations afin de tirer parti des points faibles de notre caractère. Mais combien souvent nous le laissons connaître la manière dont il peut obtenir la victoire sur nous? Oh! Puissions-nous contrôler nos paroles et nos actes? Quelle force serait la nôtre si nos paroles étaient telles que nous ne soyons pas confus à leur sujet au jour du jugement? Au grand jour de Dieu, nos paroles apparaîtront sous un jour très différent par rapport au moment où nous les prononçons. Jésus comprend les sentiments de désespoir. La foi et l'espoir ont vacillé lors de l'ultime agonie du Christ parce que Dieu l'avait privé de la certitude de son approbation et de son acceptation qu'il avait donnée jusque-là à son Fils bien-aimé. Le Rédempteur du monde s'était alors reposé sur les preuves qu'il avait réconfortées, à savoir que son Père approuvait ses efforts et qu'il était satisfait de son œuvre. Mais au moment de son agonie, à l'heure où il faisait le sacrifice de sa vie précieuse, il dut se confier par la foi seule en celui en qui il avait toujours obéi avec joie. Ni à droite, ni à gauche, nul rayon d'espoir lumineux ne vint alors l'encourager. Tout n'était que profonde tristesse. Au milieu de l'obscurité terrible ressentie par la nature elle-même, le Sauveur bute la mystérieuse coupe jusqu'à la lie. Privé du brillant espoir et de la foi dans le triomphe qui devait être le sien dans l'avenir, il s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Connaissant le caractère de son Père, de sa justice, de sa miséricorde et de son grand amour, dans sa soumission il s'abandonne entre ses mains. Devant les convulsions de la nature, les spectateurs étonnés entendent les paroles d'agonie de l'homme du calvaire. Dieu ne change pas, un sentiment d'assurance ne saurait être dédaigné. Nous devrions au contraire en louer Dieu. Mais lorsque nous avons le sentiment d'être déprimés, ne nous imaginons pas que Dieu a changé. Louons-le tout autant, nous confions à sa parole, et non dans nos impressions. Nous nous sommes engagés à marcher par la foi, et à ne pas nous laisser guider par nos sentiments. Ceci varie selon les circonstances. Ne pas parler de nos doutes, grâce au mérite du Christ, grâce à sa justice qui nous est imputée par la foi, nous sommes appelés à atteindre la perfection du caractère chrétien. Notre devoir de chaque jour et de chaque heure est tracé dans ces paroles de l'apôtre, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Dès que nous le ferons, notre intelligence deviendra plus lucide, notre foi plus vivante, notre espérance plus ferme. La contemplation de sa pureté et de son amour, la vue du sacrifice qu'il a fait pour nous réconcilier avec Dieu, rempliront tellement nos pensées que nous ne serons plus enclins à parler de nos doutes et de nos découragements. L'idéal du chrétien, le vrai chrétien ne permet pas que quelques considérations terrestres que ce soit viennent s'interposer entre son âme et Dieu. Les commandements divins exercent une influence dominante sur ses sentiments et sur ses actes. Si tous ceux qui recherchent le royaume de Dieu et sa justice étaient toujours disposés à accomplir les œuvres du Christ, le chemin du ciel serait plus facile. Les bénédictions divines se répandraient dans l'âme, et les louanges du Seigneur seraient continuellement sur vos lèvres. Vous serviriez Dieu par principe. Il se peut que vos sentiments ne soient pas toujours empreints de joie et que des nuages voilent parfois l'horizon de votre vie. Mais l'expérience chrétienne ne repose pas sur les fondations fragiles de nos sentiments. Ceux qui agissent d'après des principes considéreront la gloire de Dieu au-delà des ombres et s'appuieront sur la certitude des promesses divines. Ils continueront à honorer Dieu, aussi sombre que soit le chemin à suivre. L'adversité et les épreuves leur donneront l'occasion de montrer la sincérité de leur foi et de leur amour. Quand la dépression s'installe dans l'âme, cela ne prouve pas que Dieu ait changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Vous êtes certain de la faveur divine quand vous sentez les rayons du soleil de justice. Mais lorsque les nuages s'amoncellent sur votre âme, vous ne devriez pas avoir l'impression d'être abandonné. Votre foi doit transpercer les ténèbres. Votre œil doit être en bon état, de manière que tout votre corps soit illuminé. Il faut garder à l'esprit les richesses de la grâce du Christ. Appréciez comme il se doit les enseignements qui découlent de son amour. Que votre foi soit comme celle de Job, et que vous puissiez dire, « Quand même il me tuerait, j'espérerai en lui ». Appuyez-vous sur les promesses de votre Père céleste, et souvenez-vous de ce qu'il a fait dans le passé pour vous et pour ses serviteurs. Car toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu.